Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal. Au micro, Lievin Mbwinga à la une de l'actualité. Nuit sombre hier mardi dans la cité d'Oicha, en territoire de Beni. Des rebelles ADF ont signé un nouveau massacre dans cette partie du Nord Kivu. Détail dans ce journal. La problématique de la voie ferrée de Lobito au centre des discussions qui vont se tenir à Luanda en Angola. Félix Tshisekedi est déjà sur place. Il est avec ses homologues Joe Biden des États-Unis, João Lourenço de l'Angola. Mais quel bénéfice la RDC va tirer de ce sommet? Réponse dans ce journal. Au sujet des rebelles qui endeuillent le territoire de Beni, le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FRDC rassure, le colonel le Mac Aouzoukai parle de l'opération de traque de ses ADF dans la partie ouest de la route nationale numéro 4. Il est l'invité de ce journal. Bonjour, je le disais en titre, au moins 9 civils ont été tués, une dizaine de maisons incendiées et plusieurs biens pillés à Oicha, au Nord Kivu. C'était lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles des ADF survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans cette contrée située à 30 km de la ville de Beni. Selon des sources de la société civile locale, le bilan reste provisoire, mais un calme précaire semble régner dans la région. Les détails avec André Kitenge.
L'attaque des ADF à Oicha a eu lieu aux alentours des 19h heure locale. Les assaillants ont ciblé le quartier de Bakila-Tenambo, situé en périphérie de la cité. L'attaque, qui a impliqué l'usage d'armes à feu, a duré près d'une heure, les ADF s'attaquant principalement aux populations civiles. Selon des sources locales, le bilan provisoire fait état de 9 personnes tuées, dont 7 femmes et un enfant, ainsi que 4 blessés et plusieurs disparus. La plupart des victimes ont été tuées par balles et à l'arme blanche. En outre, des maisons et des boutiques ont été pillés avant d'être incendiés par les assaillants, provoquant le déplacement des habitants vers des zones plus sécurisées, notamment au centre commercial d'Oicha. L'armée intervenue pour repousser les assaillants indique que toutes les dispositions sont prises pour traquer ces rebelles. Son porte-parole, le colonel Makazukai, invite les habitants à se rapprocher des positions militaires et à éviter de se rendre dans les villages reculés. Il ajoute que 2 otages ont été libérés par l'armée. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Sécurité toujours, cette fois ce sont des accrochages entre rebelles du M23 et l'armée congolaise et groupe Wazalendo dans plusieurs localités du territoire de Masisi. C'est notamment autour de la cité minière de Rubaya, au nord Kivu toujours, où des détonations d'armes lourdes sont entendues ce mercredi. Et pendant ce temps, la cité de Sake, dans le même territoire, s'est réveillée dans une accalmie ce mercredi. Ce, après la chute d'au moins 3 mortiers dans la soirée d'hier près de la zone. Le point avec Bernardin Nyang.
Les combats ont repris vers 8h locales ce mercredi autour de la cité minière de Rubaya, en territoire de Masisi. Selon plusieurs sources locales, les combattants Wazalendo ont repris les attaques qu'ils ont menées entre 4h du matin et midi hier mardi contre les positions des rebelles M23, notamment à Kibabi, Biambwe et Mema, à une dizaine de kilomètres de Rubaya centre. Aucun bilan de ces combats n'est encore disponible, la zone ayant des perturbations des réseaux de téléphonie mobile. Par ailleurs, entre 17h30 et 18h locales, hier mardi, au moins 3 mortiers qui auraient été largués depuis les positions occupées par les rebelles sur les montagnes surplombant Sake sont tombés sur le village de Kimoka. C'est à près de 2 km du centre de Sake. Aucun dégât humain ou matériel n'est à déplorer, disent nos sources sur place, excepté le fait que cela a accru la psychose dans la cité qui enregistre un retour timide des habitants. Dans la même zone, nos sources parlent d'un autre affrontement qui a opposé lundi matin l'armée congolaise aux rebelles M23 sur l'axe Kimoka-Chauvet dans le parc national de Virunga, sans plus de détails. Goma, Bernardin Nyangi, Radio Kapi.
Nous ne quittons pas le Nord Kivu puisque la situation reste tendue et très volatile ce mercredi dans l'agglomération de Bukombo en territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources locales, la zone a été toute la matinée d'hier mardi le théâtre de violents affrontements opposant les Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC aux rebelles M23 qui occupent la zone. Une femme et une fille grièvement blessées par balles perdues ont été acheminées à à l'hôpital de Mouesso, indiquent nos sources. Elles ajoutent que ces combats se sont concentrés autour du village Moko et près de la paroisse de Birambizo. Rappelons que le centre de Bukombo est occupé depuis le 11 novembre dernier par les rebelles du M23 alors que les Wazalendo se trouvent dans les environs. Sachez aussi que le Nord Kivu dispose désormais d'une équipe provinciale intégrée de transition auprès de la MONUSCO. Le protocole de mise en place de cette équipe a été signé dans la soirée d'hier mardi par le chef de bureau de la MONUSCO et le gouverneur militaire ad intérim, le général-major Peter Chirimwami Nkuba. Pour le chef du bureau de la MONUSCO Goma, l'équipe forme le cadre stratégique multi-acteurs d'orientation, de coordination et d'évaluation du mécanisme provincial de transition et désengagement de la MONUSCO. Cela même si la date du retrait de la mission onusienne n'est pas encore précisée. Omar Aboud dans cet extrait choisi par Bernardin Nyangi.
Comme vous savez, il n'y a pas une date précise pour lancer le processus de désengagement et transition, mais c'est important de commencer le travail de maintenant. C'est pourquoi nous sommes ici pour signer les deux décrets. C'est le gouverneur qui a signé ça. Nous sommes ici pour faire le suivi et pour soutenir le gouvernement. Nous continuons à effectuer notre mandat clé qui est protection des civils dans la province, mais dans le pays, surtout maintenant, on est toujours dans la province de Nord Kivu et Ituri, jusqu'à le dernier jour. Alors pour nous, c'est très important, on continue à soutenir nos partenaires, le côté militaire, les FRDC, mais aussi le côté d'administration, le gouverneur, les institutions étatiques. Il n'y a pas une date pour commencer la transition, mais le moment, il y a une décision. Au niveau de Kinshasa, en consultation avec notre chef, avec la décision du Conseil de sécurité, on peut lancer la transition.
Sécurité encore, désormais tous les Kuluna ou gangsters seront exécutés. Ainsi en a décidé la commission spéciale dite Kuluna Zéro, mise en place au cours d'une réunion hier mardi au ministère de la Justice pour lutter contre l'insécurité dans les grandes villes de la République démocratique du Congo. Donc dès aujourd'hui commencent les audiences publiques foraines contre le banditisme urbain à Kinshasa et en province. L'annonce est faite par le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba, en exécution des instructions du président de la République. Selon le ministre, faisant référence à la Bible, qui tue par l'épée, périt par l'épée. La commission est composée des membres du ministère de l'Intérieur, de la Justice, ainsi que des hauts magistrats, auditeurs, militaires et des agents de sécurité. Le ministre annonce également des bouclages dans les quartiers et rues de la capitale. On l'écoute dans cet extrait choisi par Jeff Ngoy.
Et il était question pour nous de pouvoir exécuter les instructions de la haute hiérarchie en mettant en place la commission de lutte contre le banditisme urbain. Cette commission va travailler pour traquer jusqu'à leur dernier retranchement pour les Kuluna qui sèment mort et désolation. La commission va lancer l'organisation des procès en flagrance contre tous les Kuluna. Tout celui qui sera attrapé sera arrêté, jugé, condamné au terrorisme, sont donc punis de la peine de mort. La commission a également décidé de faire exécuter la peine de mort, mais également transférer tous les condamnés Kuluna dans des prisons de haute sécurité. Le premier lot des Kuluna qui sont condamnés cette semaine sera évacué à Anginga et dans d'autres prisons déjà ce week-end. Des bouclages seront organisés dans les quartiers.
C'était le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Une autre mesure phare prise par la commission consiste à traquer les auteurs des nuisances sonores diurnes et nocturnes. Tous ceux qui se livrent à déranger la quiétude des voisins seront non seulement interpellés, mais se verront également confisquer leurs instruments de nuisance et payer de lourdes amendes, d'après Constant Mutamba. Félix Tshisekedi à Lobito en Angola. Le président de la République démocratique du Congo est arrivé sur place ce mercredi pour participer à la rencontre multilatérale sur le corridor de Lobito. Félix Tshisekedi rejoint ses homologues Joe Biden des États-Unis, João Lourenço de l'Angola, Hakainde Hichilema de la Zambie ainsi que le vice-président de la Tanzanie. Cette réunion multilatérale autour du corridor de Lubito vise à redynamiser ce projet stratégique soutenu par les États-Unis et qui consiste à relier l'océan Atlantique à l'océan Indien en passant par la République démocratique du Congo. Le corridor de Lubito devrait faciliter le transport des produits miniers, notamment le cuivre et le cobalt. Selon la presse présidentielle, le président Félix Tshisekedi devrait également rencontrer en tête-à-tête son homologue américain Joe Biden, arrivé pour la première fois en Afrique. Le président des États-Unis séjourne donc en Angola depuis 48 heures. La problématique de la voie ferrée de Lobito sera au centre des discussions entre lui et quelques chefs d'État d'Afrique. Nous venons de le dire, ce projet a bénéficié des financements de l'Union européenne et des États-Unis d'Amérique. La RDC est aussi concernée par ce projet. Mais quel bénéfice va-t-elle en tirer? Tentative de réponse avec Jean Gandou.
Le port de Lobito est une aubaine pour l'économie congolaise, notamment dans le cadre des échanges commerciaux. La voie ferrée qui mène à ce port à partir de la RDC offre plusieurs avantages aux opérateurs économiques. Généralement, les miniers du Lualaba et du Haut-Katanga évacuent leurs produits par le port de Durban en Afrique du Sud ou par celui de Dar es Salaam en Tanzanie. Et ce sont plus de 3000 km à parcourir. Le premier avantage s'est défini donc en termes de temps. Pour aller au port de Durban, les camions mettent 25 jours en revanche pour atteindre dans le port de Lobito, la durée est réduite à 8 jours et la distance est d'environ 1600 km, ce qui constitue un gain considérable. Les miniers du Lualaba et ceux du Haut-Katanga pourront également faire passer leurs importations par ce port. Pour Justice ASBL, une ONG de défense des droits de l'homme, la reprise du trafic et la réhabilitation de cette voie ferrée devraient en principe avoir aussi des effets collatéraux sur les entités directement impactées par l'exploitation de cette voie ferroviaire. Timothée Mbouya.
C'est une très bonne opportunité pour lancer l'économie. La justice demande que les besoins des communautés soient priorisés dans ce projet. On prenne par exemple en compte le besoin en développement des infrastructures, en développement de l'agriculture ou en développement d'autres besoins sociaux.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Et puis le projet de budget 2025 examiné en seconde lecture hier mardi au Sénat, après son adoption à l'Assemblée nationale, il est présenté en équilibre, en recettes et en dépenses à hauteur de 49 846 milliards des francs congolais, soit un accroissement de 21,6% par rapport au budget de l'exercice 2024. Après un débat général de plus de 6 heures, la loi des finances de l'exercice 2025 est déclarée recevable par la plénière du Sénat et envoyée à la commission ECOFIN de la Chambre pour un examen approfondi. Michel Kifindangoy.
Dans sa présentation de l'économie du budget 2025 au nom de la première ministre empêchée, le ministre d'État en charge du budget souligne que ce projet est assis sur quelques indicateurs macroéconomiques, parmi lesquels le taux de croissance du PIB qui s'élève à 5,7%, le taux d'inflation moyen de 10,3% ainsi que le taux d'échange moyen de 2954 francs congolais par dollar. Pour Aimé Boji Sangara, ce budget connaît un accroissement des 18% des crédits alloués aux investissements, 16% du secteur de l'agriculture, pêche et élevage et 25,2% à la sécurité en vue de la montée en puissance de l'armée et des forces sécuritaires. Parmi les investissements envisagés dans ce budget, le ministre Aimé Boji cite la poursuite de la mise en œuvre du PEDEL 145 territoires, la construction du port en eau profonde de Banana, de la route Mbujimayi-Bukavu, ainsi que la modernisation de quelques aéroports dans plusieurs villes du pays.
Sport à présent, Cannes Handball, seniors dames, nous sommes à l'étape des quarts de finale. 4 matchs sont à suivre ce mercredi. Vanessa Kongolo est sur place. Alors Vanessa, quel match se joue en ce moment?
Il faut dire en ce moment qu'il y a 2 matchs qui se jouent. Le premier se joue dans les premiers gymnases et oppose l'équipe du Congo à celle de la Tunisie pour ce premier match qui a débuté depuis 11 heures. Il faut dire qu'on joue les derniers instants de ce match. Encore au moins 7 minutes pour la fin de ce match et c'est la Tunisie qui mène devant les Congo par le score de 23-21. L'autre match qui a commencé depuis environ 14 minutes en ce moment oppose les Kenya à la Guinée et c'est la Guinée qui mène au score par 10-3. Voilà un peu la situation pour les deux matchs qui ont débuté ou qui se jouent en ce moment au stade. Mais il faut dire que d'autres matchs sont donc à suivre tout à l'heure là, après ce premier match. On aura donc les autres matchs qui vont opposer à partir de 13h. On aura les matchs entre l'équipe tenante du titre, l'Angola, qui va affronter l'Algérie. À 16h, on aura les matchs entre le Sénégal et le Cameroun. Et enfin, la RDC va jouer contre l'Égypte. Le coup d'envoi de ce match est prévu à 18h30, heure de Kinshasa.
J'espère, Vanessa, que la pluie ne va pas déranger ces matchs. Et quelle est l'ambiance sur place? Dites-nous.
En tout cas, il faut dire que sur place, l'ambiance est bon enfant. Dans le deuxième gymnase où se jouent les matchs entre les Kenya et la Guinée, c'est assez calme. Mais dans les premiers où l'équipe du Congo d'à côté, ou qui affronte l'équipe tunisienne, l'ambiance est totale parce que de ce côté-là, les supporters congolais ont fait la traversée pour soutenir les Diables Rouges qui sont en train de chercher une qualification à la Coupe du Monde. Il faut dire, Lievin, que pour le match de quart de finale, c'est le match le plus important de cette compétition parce que les équipes qui vont gagner ce match et se qualifier en demi-finale seront automatiquement qualifiées pour la Coupe du Monde de la spécialité.
Voilà, merci Vanessa Kongolo pour toutes ces précisions.
Actualité internationale.
En dehors de nos frontières à présent, la Namibie a fait l'histoire en élisant pour la première fois une femme à la présidence. Netumbo Nandi, ancienne vice-présidente et figure de proue du SWAPO, a remporté l'élection avec 57% des voix, consolidant ainsi le pouvoir du parti qui dirige le pays depuis son indépendance en 1990.
L'invité.
Depuis près d'un mois, les ADF multiplient les attaques dans le territoire de Benio Nord-Kivu. La dernière incursion de ces rebelles s'est déroulée à Oicha, chef-lieu du territoire, où au moins 9 civils ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi. Le porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord des FRDC, le colonel Mac Azukai, évoque des ADF traqués dans la partie ouest de la route nationale numéro 4 et qui cherchent à regagner leurs anciens bastions dans le triangle dit de la mort entre Oicha, Mbao et Kamango. Il assure que des mesures ont été prises pour protéger la population et invite cette dernière à ne pas céder à la manipulation, mais plutôt à faire confiance au FRDC ainsi qu'à leurs partenaires ougandais des UDPF et de la MONUSCO. Le colonel Mac Azukai répond aux questions de Martial Papi Mukeba.
Colonel Mac Azukai, bonjour.
Bonjour.
Les attaques des ADF se sont multipliées ces dernières semaines dans la région de Beni. Comment les FRDC expliquent-elles cette recrudescence malgré les efforts des opérations conjointes des armées congolaises et ougandaises?
Nous avions alerté il y a de cela quelques jours que l'ennemi s'était infiltré avec l'intention de revenir dans ses anciens bastions.
En provenance d'où ?
En provenance de l'ouest de la nationale numéro 4. Et aussitôt informés, nous avons pris des dispositions pour l'éradiquer. C'est vrai que c'est un travail de longue haleine. Ce groupe s'est manifesté sur la route Eringeti-Kainama, dernièrement aussi sur la route Mbao-Kamango. Hier soir, c'est encore Tenambo qui a été touché. Nous pensons que cette guerre que nous menons contre le terrorisme, nous ne la menons pas seuls, nous la menons avec nos partenaires, que ce soit l'UPDF ou la MONUSCO, y compris la population. Et nous sommes touchés lorsque l'ennemi nous échappe et vient commettre des crimes dans des agglomérations.
Certaines sources parlent des groupes des ADF qui étaient en mouvement vers l'Ituri et qui ont l'intention de revenir dans les territoires de Beni et cherchent activement des chemins pour y créer des bastions.
À un moment donné, nous avions le contrôle de ces anciens bastions et là où ils s'étaient retirés, à l'ouest de la nationale numéro 4, il ne faisait pas beau vivre et c'est ainsi qu'il est en train de chercher à revenir venir dans le triangle dit de la mort. C'est vrai, il est en train de manœuvrer parce que les gens doivent savoir aussi que l'ennemi n'est pas bête. L'ennemi essaie d'exploiter certains éléments pour essayer de se reconstituer. Mais je pense que avec le concours de la population, nous allons localiser et détruire le groupe qui est en train de errer dans le triangle de la mort.
Quelles mesures concrètes les FARDC et leurs partenaires comptent-elles adopter pour renforcer l'efficacité des opérations contre les ADF?
Non, partenaires, nous sommes soucieux de la situation. Lorsque ça se dégrade comme ça, ça nous inquiète tous. La seule chose que je peux dire à la population, c'est de doubler vigilance, d'éviter de fréquenter les profondeurs de la nationale numéro 4, surtout l'Est pour l'instant, parce que c'est là où l'ennemi est en train d'errer. Aussi, je tiens à dire à l'opinion que cette nouvelle, cette énième incursion ne doit pas constituer une occasion pour nous diviser. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui seront tentés d'exploiter cela pour diaboliser tel ou tel autre partenaire. Nous pensons que nous devons travailler ensemble. Je parle de nos partenaires et nous, y compris la population. Donc quand je parle de partenaires, je vois l'UPDF, je vois la MONUSCO qui est dans la zone et nous, nous attirons l'attention de la population pour qu'elle ne soit pas manipulée. Parce qu'il y a des gens qui vont saisir cette occasion pour dire que si ça n'a pas marché, c'est telle ou telle autre personne, c'est telle ou telle autre partenaire, ce n'est pas ça. Il n'y a personne qui peut être contente de la dégradation de la situation sécuritaire. Donc, nous devons rester ensemble, rester soudés, travailler pour que la paix revienne. Effectivement, je viens de le dire, c'est un travail de longue haleine.
Colonel Mac Azoukai, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà, ainsi s'achève ce journal qui était un peu long. Actualité oblige. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, à Élisée Chikota, à Blaise Ndongala et aussi à Mimi Kindou.